Adieu, Sikou, Mesrat Hashem, pour la tzlacha de David et de sa famille.
Amen. Amen.
Amen. Amen. Puisse avoir du nahat, des enfants et des petits-enfants.
Amen.
Surtout que cette semaine, c'est une semaine particulière.
Quand Jackie
puisque...
appelle,
okay. Oui, c'est bon, c'est lui que vous appelez. Puisque cette semaine, c'est la semaine de l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est très bien à quel point c'est un très très grand mérite. Rabbi Shimon Bar Yochai, on retrouve bien sûr dans la Gemara, mais aussi on retrouve beaucoup dans le Zohar. On sait à quel point le Tania, on rentre dans les secrets dans la Torah comme le Zohar. Et donc c'est important des moments comme ça. Hein. C'est important des moments comme ça de le célébrer avec une Seouda. On sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, d'un côté, c'était une personne qui était une très très grande élévation. Et d'un autre côté, c'est un tzadik qui était à la portée de tous. On a plusieurs exemples sur ça. Comment il était à la portée de tous. Comment il essayait de se mettre à la portée de tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle on voit que dans le monde Sfarad, mais pas que dans le monde Sfarad, on a toujours célébré les Hiloulot avec beaucoup de fastes, avec un repas. On pourrait se poser la question, on pourrait se dire, mais quel rapport entre Rabbi Shimon Bar Yochai et des grillades? Non mais sérieusement, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un tzadik qui est tellement élevé, tu crois qu'on a que ça à faire maintenant à manger des fricassés? Seulement ça, c'est le pshat. Le pshat, c'est qu'en vérité, la force des grands tzadikim, c'est qu'ils arrivent à faire descendre ce qui est le plus haut dans ce qui est le plus bas. Et c'est pas par hasard, on voit ça dans même dans les mitzvot, c'est comme ça. Quand on prend une mitzvah comme le Shabbat, comme les fêtes, etc., qu'on en fait un repas, le Shabbat c'est tellement élevé, comment tu vas célébrer le Shabbat avec un repas matériel? Oui, parce que c'est justement par le matériel qu'on montre que le but de la fête et du Shabbat, c'est de faire descendre le spirituel dans le plus matériel possible. Donc c'est ça notre travail dans le monde, c'est de marier le matériel et le spirituel. Et ça va être en rapport avec le chapitre 35 qu'on va commencer aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre. Chapitre 35, donc voilà, vous avez les taniers un peu partout ici.
Professionnel.
On a commencé la semaine dernière avec un débat.
Niveau 2.
Je rappelle le débat de la semaine dernière. On a raconté l'histoire de deux juifs. Pour rappeler les deux juifs, un juif qui était en Sibérie, qui avait été exilé parce qu'il a diffusé la Torah. Arrive le soir du CDR, il n'a pas de matzot. Il prend trois carreaux de sucre et il dit à Hachem, considère ça comme des matzot. De l'autre côté de la planète, à Ibiza, c'est l'exemple de la semaine dernière, vous avez un juif qui est loin de la Torah.
Ah, tu l'as pas fait voyager.
Que c'est le sort du CDR, il n'a pas bougé. Il veut pas faire le CDR. Il y a son voisin, Goy, qui vient avec un paquet de matzot et un revolver. Et il lui pointe le revolver sur sa tempe et il lui dit, soit tu manges la matzah ou je te tue. Qu'est-ce que fait le juif? Il mange la matzah, sans kippa, sans bracha, sans rien. Résultat des courses, qui a fait la mitzvah? La halakha te dit que celui qui a fait la mitzvah, c'est celui qui a mangé. Et que celui qui est en Sibérie, bien sûr qu'il est à nous, c'est un cas de force majeure, que comme c'est un cas de force majeure, on ne lui dira rien. Mais concrètement, dans les mitzvot, il y a un aspect concret. Et ça, c'est une notion très très importante sur laquelle on va s'arrêter. Donc là, on a une série de cours depuis le chapitre 35 jusqu'au chapitre 40. Que sur ça. D'un côté la kavana, d'un autre côté l'action. Et ça nous concerne mamash tous les jours. Regardez. Par exemple, ce matin, on a mis les téfilines. Est-ce qu'on a ressenti quelque chose? Je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Pourtant, qu'est-ce qu'on te dit? Même si tu ne ressens pas, fais-le quand même. Oui, mais attends, mais à quoi ça sert de faire si je ne ressens pas? À quoi ça sert? C'est là qu'on va voir qu'en vérité, il y a un but dans le fait même de faire une mitzvah, même si on ne comprend pas comment ça fonctionne. Bien sûr qu'il y a un but après de comprendre, mais le fait même de faire la mitzvah, c'est un but en soi. Et ça nous ramène.
Ouais, mais ça pouvait pas être autrement. Hein.
Bien sûr, ça pouvait être autrement, Monsieur Benita.
Non.
Parce que quand on comprend pas quelque chose,
non.
Je viens essayer une fois, deux fois, trois fois, 15 fois, 10 fois, 20 fois, mais quand je vois que ça marche pas, que je comprends pas ce que je fais, je m'arrête.
Non, mais c'est pas ce qu'il dit.
Qu'est-ce que te dit la Torah?
Non.
La Torah te dit, même si tu comprends pas, fais-le quand même. Je vous donne un exemple. On va être honnête. Sur 1000 amidotes, plus même de 1000 amidotes, sur 1100 amidotes que je fais dans l'année. Combien de pourcentage d'après vous, j'ai la kavana et je suis dans ma amida?
C'est quoi les...
L'amida.
Ah oui.
Sur 1100 amidotes que je fais dans l'année, combien de amidotes on aura la kavana? Combien? Combien de pourcents?
Peut-être 1%, 2%.
De 1%, 2%? Alors quoi? Ça veut dire que pour 1 ou 2%, on fait toute l'année le cirque? Le cinéma? Prenez ma question. Ma question, c'est que dans le judaïsme, il y a beaucoup d'actions. Par exemple, tu as des gens chez eux à la maison, ils ont une mezouza. Ils ne savent pas pourquoi ils ont une mezouza, mais tu leur poses la mezouza. Tu as des gens, on va les encourager à mettre les tefilines. Ils ne savent pas pourquoi mettre les tefilines, mais on les encourage à mettre les tefilines. Je vous ai raconté l'histoire la semaine dernière, les tefilines. La question qu'on se pose, c'est pourquoi dans le judaïsme, on insiste tellement sur l'action. Pourtant, on est le peuple du livre, on est le peuple de la chorma. Et un peuple intelligent, on ne doit pas insister sur l'action. Il y a d'autres peuples, ils sont moins intelligents. Enfin, ils insistent moins. Alors, bon, effectivement, ce qui compte, c'est qu'ils font ce qu'ils fassent. Mais nous, on est un peuple différent. Nous, on est un peuple qui met l'accent sur la réflexion, sur la compréhension. Oui. Alors, comment un peuple qui met l'accent sur la compréhension, comment un peuple comme ça, il peut venir et dire, il y a des mitzvot, ce qui compte, c'est que tu les fasses. Après, on va rajouter la kavana. C'est bizarre. Donc, en vérité, pour répondre à cette question, comme j'ai dit la semaine dernière, et là, on va entrer dans le vif du sujet, on va devoir retracer l'histoire du monde depuis la création du monde. Ça veut dire que pour répondre à cette question, à quoi ça sert de faire une mitzvah qu'on ne comprend pas? À quoi ça sert? Pourquoi je veux continuer? Imaginez, votre enfant, il arrive, à l'âge de 15 ans, 16 ans, il te dit, papa, j'ai pas envie de faire le Shabbat parce que je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que tu vas lui répondre, ce gosse? Qu'est-ce que tu lui réponds? Oui, mais ça lui rentre pas. Ça passe pas. Qu'est-ce que tu lui réponds? Qu'est-ce que tu lui réponds à cet enfant? Toi, qu'est-ce que tu réponds? Oui, mais ça marche pas, ça. Ça marche quand on a 5 ans.
Non, il est arrivé à un âge de...
Il est arrivé à un âge où il veut comprendre. Et donc, il te pose la question, et chacun est un enfant, il te pose la question, il te dit à quoi ça sert? Qu'est-ce que tu lui réponds? Pour répondre à cette question, on va être obligé de reprendre l'histoire depuis la création du monde. De comprendre pourquoi j'ai été créé, à quoi ça sert, quel est le but que Dieu attend. Et c'est seulement quand on va tout reprendre depuis le début qu'on va commencer à comprendre à quoi ça sert tout ça. Vous avez une question, M. Benita, allez-y.
La question elle est simple. Encore une fois, on ne pouvait pas faire autrement que de commencer de privilégier l'action au détriment de la kavana. Pourquoi? Parce que si on me dit il faut d'abord la kavana, ensuite si j'ai pas la kavana, je fais pas l'action, je ferai jamais d'action.
Je vais vous donner un exemple, M. Benita. Imaginez que je connais quelqu'un qui ne met pas encore les téfilines. D'accord? Et je vais aller le voir dans son magasin. J'ai deux options. Écoutez bien ce que je vais dire. Première option, je vais prendre du temps pour lui expliquer la mitzvah des téfilines. Je vais faire une vraie enquête. Ça veut dire que je vais chercher dans les livres, etc. Je vais venir lui faire un exposé. Je vais lui vendre la mitzvah, quoi. Pour qu'il soit intéressé. Et après, au bout de plusieurs heures de cours, je vais dire, maintenant on va passer à l'acte. C'est comme ça qu'on va un contrat normalement. C'est pas directement tu dis monsieur venez signer. Après je vais vous expliquer sur quoi vous avez signé. D'abord tu lui expliques. Après il signe. Ah, c'est première option. Deuxième option, je vais le voir dans ma tête. D'abord je lui dis mettez les téfilines. Après s'il comprend tant mieux, il comprend pas c'est pas grave. L'approche la plus logique aurait été d'abord d'expliquer. Vous êtes d'accord Jackie? Tu vas voir quelqu'un d'abord explique-lui. Pourtant la Torah te dit non. Et tu vas voir quelqu'un d'abord tu fais la mitzvah. Naase venishma. Ça, c'est pas simple, ça. Parce que c'est complètement contraire à l'approche de la Torah, a priori. L'approche de la Torah qui privilégie la compréhension. Quand je vais voir quelqu'un, je lui dis signe. Pourquoi je lui dis maintenant, je vais t'expliquer ce que tu as signé. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Pourquoi on insiste tellement sur l'action? L'action devrait être l'aboutissement d'une réflexion. Pas l'inverse. Comment on fait dans le judaïsme? On dit à un peuple, on dit faites. Maintenant, dans le peuple, tu auras 10% qui vont comprendre. On dit, c'est tant mieux, il y a 10% qui ont compris. Mais c'est pas grave si le reste n'ont pas compris. Ils ont fait. Ça veut dire que l'action n'est pas l'aboutissement d'une réflexion. L'action est un but en soi. Comment on peut dire que l'action est un but en soi? Ça, c'est la profondeur de la question. Là, pour répondre à cette question, on va rentrer dans les mots. Alors, on est au chapitre 35. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à attraper avec les mains pleines d'huile le Tania. Alors.
Non, ça tourne tout seul. Il fallait l'ouvrir avant de manger.
Même le livre, on va s'en rappeler. Vous avez où le Tunisien? Tant pis pour vous.
Alors, Véhiné, Letos, vous avez déjà acquis le livre?
Véhiné.
Ah, vous êtes, ce prochain, vous êtes déjà en Israël, c'est ça?
Mardi prochain.
Ah, d'accord. Lundi prochain, il y en a encore. Véhiné, Letosefet, Biur, Tevat, La Soto. Pour mieux expliquer le mot La Soto, on a expliqué dans la page du Gard du Tania que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous donne les mitzvot, trois choses. Beficha, Uvilvafra, La Soto. Dans ta bouche, ça veut dire la parole. Uvilvafra, dans ton cœur, donc c'est la pensée. La Soto, l'action. L'action. Ça veut dire que normalement, il y a trois vecteurs. Il y a la pensée, la parole et l'action. Mais, on voit que dans le judaïsme, on privilégie énormément l'action. La preuve, c'est que si on comptabilise les mitzvot, la majorité des mitzvot sont liées à l'action. Il y a une partie des mitzvot qui sont liées à la parole, certes. Mais vous allez voir, on va dire que même les mitzvot qui sont liées à la parole, quelque part, il y a un côté action. Pourquoi? Quand vous parlez, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Benital, là, quand je parle, qu'est-ce que je suis en train de faire? Quand je parle, qu'est-ce que je fais? Tu exprimes. D'accord, regardez-moi là. Regardez ma bouche. Qu'est-ce que je fais quand je parle?
Non, ça bouge.
Je fais un mouvement. Je bouge mes lèvres. Mm-hmm. Donc c'est une action. Mm. Mm. Vous avez compris?
Oui, oui.
Donc ça veut dire que même dans la parole, il y a une action. Ça va très loin. Comment ça se fait qu'on privilégie tellement l'action? Ça, c'est première question. Vegam est aussi, mais à admiser un petit peu. On peut pas rentrer dans les calculs de Dieu, mais quand même. Léavine, d'accord, pardon. Tachlit Briat Abenoni. Pour essayer de comprendre un petit peu à quoi sert la création du Benoni. Rappelons-nous qui est le Benoni. Le Benoni est une personne qui va probablement galérer toute sa vie sur les mêmes dossiers. C'est la réalité. C'est la réalité de chacun de nous. Chacun de nous se connaît, chacun de nous connaît ses challenges personnels, communautaires, familiaux, religieux, etc. Et pour être honnête, compare-toi à ce que tu étais il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, tu verras que les challenges n'ont pas changé. Ils ont peut-être changé de forme, mais le fond c'est le même, toujours les mêmes problèmes. Alors dans ce cas-là, j'ai une question, à quoi ça sert? Quand tu ouvres une boîte, pourquoi tu ouvres la boîte? C'est pour gagner des sous. Mais si tu vois que tu perds tout le temps des sous, à chaque fois la raison elle change, mais concrètement, chaque année quand on fait le bilan, tu perds des sous. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fermes. Oui, mais une fois c'était l'URSSAF, une fois c'était les impôts, une fois c'était ci, une fois c'était ça, une fois c'était une mauvaise affaire, une fois c'était un mauvais calcul, etc. Mais concrètement, quand tu vas 5 années, 10 années, 15 années, 20 années d'affilée, tu vois qu'à chaque fois, on perd des sous. Tu peux accuser toute la planète, tu dis oui, mais là c'est la cause de lui. Non, mais là c'est la cause de lui. Mais à un moment tu dis, mais c'est pas rentable, ça sert à rien. Le Benoni. Puisque toute sa vie, il se bat pour les mêmes choses. Alors pourquoi il a été créé? Pourquoi il a été créé? Si tu me dis que le but du Benoni, c'est un jour de devenir tzadik, que effectivement avec le temps, un jour, il aura plus d'Yetzara, là je dis, ah, bon, c'est vrai, il va galérer au début, d'accord, c'est vrai, après ça sera pas facile, mais à la fin, ça finira par décoller. Mais qu'est-ce qu'on a appris longuement dans le Tanya? Que pour la majorité des Benonim, ils vont jamais décoller. Ça veut dire que tous ceux qui sont aussi autour de la table, d'accord, et moi en premier, on sera jamais tzadikim, on sera jamais. Alors à quoi ça sert? De se battre tout le temps pour se battre. On dirait que la bagarre est elle-même un but. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On va se battre sur les mêmes choses. À quoi ça sert? Les veillerida tishmotem le olamazé. Pourquoi leurs âmes sont descendues ici-bas sur terre? Les iklabesh benefesh abamit. Pour s'habiller dans une âme animale. Shema klipa vesitrahara. Avec donc une âme animale. Chez les tzadikim, je comprends. Chez les tzadikim, c'est très simple. J'ai une âme divine, une âme animale. Chez les tzadikim, l'âme divine descend, elle s'habille avec l'âme animale, elle transforme l'âme animale. Ça veut dire que quand il arrive, résultat des courses après 120 ans, on peut dire, voilà avant, voilà après. Vous savez, comme ils font dans les régimes, etc. Avant, après. Before, after. Chez le tzadik, c'est très clair. Il y a le before, il y a le after. Il y a avant, l'âme animale, après. Mais chez le Benoni, toute sa vie, il va se battre pour la même chose. Alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Puisque le Benoni, en vérité, n'arrivera jamais, dans les faits, à repousser, à renvoyer son âme animale de son corps. Kol yemehem, toute sa vie. On a expliqué ça longuement. Que le Benoni, il a beau faire ce qu'il veut faire, mais concrètement, jamais il arrivera à se défaire de son Yetzara. Il aura toujours des pulsions et des pensées qui vont dans la tête. Pourquoi? Parce que l'essence chez le Benoni de son âme animale, chez Meaklipa, elle est aussi forte que sa naissance. D'accord? Rak seulement, chez le Vouchea, Enamitlapshim Begoufam, Canal. Comme encore on a expliqué dans le chapitre 12 et 13, le Benoni, il a toujours des pulsions, mais il ne les laisse pas s'exprimer, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Alors, Imken, si c'est comme ça, écoutez bien cette question. L'amazé yardou nishmotem laolamazé. Pourquoi leurs âmes, des bénonymes, sont descendues sur terre? Liga la rik, de se fatiguer en vain, tras veshalom, leilachem kolimem imayetzer, de se battre toute leur vie avec le yetzer arabe, loyertlulo, et ils ne réussiront pas. J'ai une question très simple à vous poser. Prenez un bébé qui va naître. D'accord? Un bébé, un enfant, un petit-fils, etc. Un bébé qui va naître. Ce bébé, il est pur ou pas?
Oui.
Très bien. Est-ce que d'après vous, à sa mort, il sera aussi pur qu'à sa naissance?
Non.
On espère pour lui.
Hein? D'après vous, combien de probabilités, de chances il y a pour qu'à sa mort, il soit au moins aussi pur qu'à sa naissance? Moi, je vais vous dire, la probabilité, zéro.
Si, il joue mortalité infantile.
Zéro. Zéro. Probabilité, zéro. Il sera jamais aussi pur qu'à sa naissance.
Merci.
À moins qu'il soit tzadik. Donc bon, on va dire probabilité de 0,0000, ça s'appelle une probabilité nulle. Très bien. Alors, j'ai une question très simple à poser à Dieu. Ton affaire n'est pas rentable. Pour un tzadik, ton affaire est rentable.
Amen, amen.
Tu l'as fait démarrer pur, il est ressorti après 120 ans, très pur. Très bien. Mais pour nous, je sais très bien que le jour de ma mort, je ne serai pas aussi pur qu'à ma naissance. C'est une évidence. Alors on se bat, on essaye de tenir bon tous les jours, mais je sais très bien que je ne serai jamais aussi pur qu'à ma naissance. Alors dans ce cas-là, lorsque j'arrive à la fin de ma vie, lorsque Dieu fait résultat des courses, d'accord, les entrées, les sorties, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a envoyé un gars pur, il a retrouvé un gars à moitié sale. Qu'est-ce qu'il a gagné? Et c'est pas une exception, c'est tout le monde qui est comme ça. Donc il y a quelque chose, il manque quelque chose ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un problème, il manque quelque chose. C'est pas possible. Et donc, c'est une question existentielle qu'il pose ici. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé la majorité des gens bénonymes et que concrètement, dans leur vie, toute la vie, ils se battent sur les mêmes choses, ils se battent sur les mêmes problèmes, les galériques. Ça veut dire que chacun de nous se connaît. Chacun de nous se connaît par rapport à son Yetzara. Ça peut être par rapport au plaisir, par rapport au désir, par rapport à l'orgueil, par rapport à ce que vous voulez, par rapport aux femmes, par rapport à tout ce que vous voulez. Chacun de nous se connaît. Chacun de nous connaît son Yetzara. Et chacun de nous sait que ça lui colle à la peau. Et que ça nous colle à la peau. Et que ça ne nous lâchera pas. Ok? Chacun de nous connaît. Voilà, tu vois, il y en a qui veulent des Benatash, il y en a qui veulent des... Bon,
ça va. Il y en a, c'est tout à la fois.
C'est des briques. Hein, c'est des briques, hein, d'accord. Je sais pas, il y a tellement d'huile, je sais pas ce qu'il y a. Alors.
Je vends les serviettes.
Alors, concrètement, à quoi ça sert? À quoi il sert le bénonyme? Il sert à rien.
Il est pas rentable.
Tu fais rentrer quelqu'un dans une institution, tu sais qu'il va sortir plus bête que ce qu'il est rentré. Imaginez, je fais rentrer un gosse à l'école, je sais qu'il va ressortir plus bête que ce qu'il est rentré. Mais je le fais pas rentrer, c'est une perte de temps. Alors quand c'est un raté, je vais bien. Mais quand c'est 99,999% des gens qui sont ratés, il y a un problème. Ça veut dire que, certainement, il y a un autre but. Le but n'est pas seulement la rentabilité, il doit y avoir autre chose. Parce que la rentabilité, on ne l'a pas. La rentabilité, dans le sens commercial du terme, il est clair qu'on ne l'a pas. La majorité des gens qui partent de la terre, ils ne partent pas aussi purs qu'ils sont venus. Et c'est impossible, parce qu'il y a un Yetzara qui est très fort. C'est pas de leur faute. Ils tiennent comme ils peuvent.
Mais on
compare. Leur Yetzara sera au moins aussi fort que la naissance. Ok? Alors pourquoi? Monsieur Benita.
Ben la comparaison, elle n'est pas... Il n'est pas approprié. Pourquoi? Parce qu'on compare un bébé avec quelqu'un qui a fait toute sa vie. Le bébé, lui, il a fait aucun effort. Il vient à peine de naître, etc. Forcément.
C'est un état.
Monsieur Benita, je répète ma question. Ma question est la suivante. Prenons la Neshama avant qu'elle descende sur Terre. Prenons la Neshama après qu'elle est descendue sur Terre. D'accord? Neshama de Monsieur Avraham qui est descendu, ça fait 120 ans. Neshama de monsieur, d'accord, Avraham, qui repart aujourd'hui, après 120 ans. Avraham en bonne santé, hein. Bon, c'est monsieur Avraham. Amen. D'accord? Ce monsieur Avraham, qu'est-ce qu'il a de plus jusqu'à qu'il a 120 ans? Qu'est-ce qu'il a de plus? Sa Neshama, il est clair qu'elle n'est pas aussi pure qu'à sa naissance. Parce qu'à sa naissance, elle venait directement de Dieu, elle n'était pas affectée par les plaisirs de ce monde-ci. Entre temps, on a fait des Averot. Entre temps, mais elle a passé par le Karcher déjà. Entre temps, elle a été, c'est une deuxième main, mais bon, elle a été, on l'a donné une nouvelle vie. D'accord? Hein? On l'a quoi? On l'a purifié. Maintenant, concrètement, 120 ans plus tard, qu'est-ce qu'il a de plus qu'avant? À quoi ça sert? Ça veut dire que si tu dis que le but c'est juste de tenir bon, oui, mais pourquoi? Donc, en fait, on est obligé de dire que le but c'est pas seulement de purifier la Neshama, parce que ça, on n'y arrive pas forcément. Le but, c'est toute la Torah et les mitzvot qu'on va accomplir pendant ces 120 ans. Ça, c'est le avant et le après. La Neshama, quand elle est descendue en bas, elle était propre. Quand elle va remonter, elle est moins propre. Ça, c'est clair. Ça, c'est pas rentable. Mais qu'est-ce qui a changé? En haut, la Neshama ne pouvait pas accomplir la Torah et les mitzvot. Elle va descendre en bas. Alors, c'est vrai qu'entre temps, la Neshama va salir, elle va être en mission spéciale. Mais quand elle va remonter en haut, elle va remonter avec des mitzvot. Et donc, les mitzvot, c'est l'action. Donc là, on commence un petit peu à comprendre pourquoi c'est tellement important l'action. Parce que finalement, l'action, c'est la seule rentabilité qu'on a de la Neshama. C'est pour ça qu'on l'est sur Terre. C'est pour toutes les mitzvot qu'on va faire. Ça, c'est la différence. Vous voyez, hein, que pour la venir, tu me ah, t'en trouveras pas à New York, c'est un des.
C'est bon, hein, hein. Ah bon. Il n'aime pas Monsieur Cohen.
Il
n'aime pas
à la maison.
Amène-la au cours, on le regarde. Tu disais, il a oublié court, il est là comme un fou.
Alors. Sinon, David, on va faire quand il y a les fricassés comme ça, on va faire deux sessions, tu vois.
Parce qu'il y a quand même beaucoup de salades spéciales, de machin. C'est, je voudrais savoir.
Il y a tellement d'arisa, moi, je n'en pleure rien quand je vous dis.
Non, pas du tout. Non. Ah, tu abuses, Mehdi. Tu abuses. L'arisa, c'est pour.
Non, mais faudrait, c'est, il faut. C'est vraiment, c'est mon palais n'est pas habitué.
Tu
as
fait ta masse à mon édice ou pas ?
Hein ? Alors, Dylan Morazaka, ça c'est encore pire. Alors, Dylan Morazaka.
Vous me lirez, je ne viens pas. Hein.
Dylan Morazaka, il continue. Ou Tehizot.
Il faut faire gaffe.
Je suis à la page 100 encore.
Allez, rabotaï. Posons les fricassés. Revenons, Tania. Ou Tehizot, Nechamatam, Lenachamam, Bekiflaim, le Tushia. Donc, rappelons-nous, la Morazaka ici pose deux questions. Deux questions existentielles. Première question qu'il pose. Il dit, la soto, pourquoi on insiste tellement dans le judaïsme sur l'action? Deuxième question qu'il a posée, sur laquelle on a plus élaboré, à quoi sert, pourquoi le Benoni est sorti sur terre? Puisque dans les faits, sa neshama repartira plus sale que ce qu'elle est venue. Pourquoi elle est descendue? Je vous donne un exemple. Vous prenez une voiture, ok? Vous l'achetez, elle est neuve. Bon, 10 ans plus tard, on va dire 15 ans plus tard, elle part à la casse, d'accord? Qu'est-ce que la voiture a gagné? La voiture, elle a rien gagné, parce que la voiture, quand je l'ai prise, elle était neuve, elle était en bon état. 15 ans plus tard, elle part à la casse. On est d'accord. Mais quelle a été la rentabilité de la voiture? Ben, la rentabilité de la voiture, c'est qu'elle a servi à quelqu'un. Elle m'a accompagné.
C'est d'accord. Un usage.
Donc ma question par rapport à la Neshama, à quoi servait la Neshama? Dieu m'a donné un moteur, à quoi a servi ce moteur?
Pour accomplir
les mitzvot. Ça veut dire que la Neshama en elle-même, elle revient plus sale que ce qu'elle est venue. Mais son but, quand on va revenir en haut, Dieu va pas lui dire, tiens, on va regarder, est-ce que t'es en bon état ou pas? Une voiture, je vais pas la regarder après 15 ans pour dire, tiens, on va voir, est-ce qu'elle est en bon état ou pas? Elle est pas en bon état, elle est pas mal marché. Non, c'est pas ça l'indicateur. L'indicateur n'est pas, est-ce que maintenant elle est en panne ou pas? L'indicateur est-ce que pendant 15 ans elle a fonctionné? Est-ce que pendant 15 ans elle a rendu de bons et loyaux services? C'est la même chose. Lorsque la Neshama remonte chez Akadosh Baruch Hu, la question qu'on pose à la Neshama, c'est pas est-ce que t'es aussi propre qu'à la naissance, parce que ça, elle ne le sera pas. La Neshama, elle est fracassée, elle est salie, c'est clair. Elle part à la casse, en tout cas, elle va être recyclée. La question n'est pas est-ce que la Neshama est propre ou pas. La question est-ce qu'elle a travaillé quand elle était en bas? Est-ce qu'elle a rendu des bons et loyaux services? C'est quoi les bons et loyaux services de la Neshama? C'est faire la Torah et les mitzvot. Et ça, quand on réfléchit à ça, il dit ici, ou te izot nechamatam, le nachamam bekiflaim. Ce qu'on vient de dire, l'importance de l'action, ça va être la consolation du Benoni. Parce que le Benoni va dire, mais je suis pourri à l'intérieur. Ça veut dire que, finalement, j'essaye de me robotiser, à me pousser à faire des mitzvot, qu'au final, au fond de moi, je sais même pas si j'y crois. À un moment, tu as la crise. Alors, il y a la crise de la vingtaine, la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, la crise de la soixantaine, chaque âge a sa crise, d'accord? Chaque décennie a sa crise, hein.
50, plus de crise.
Hein, plus de crise?
Non.
Bon.
Ouais, 50, c'est la. Après 50, je crois que c'est la dernière crise.
Ah, qu'est-ce que t'en sais? On verra. Il faut demander aux plus anciens. Il y a des crises, hein?
Il y a des plus anciens. Moi, j'ai 8 ans, moi.
8 ans, 8 ans. Post 50. Alors, non, mais c'est une question sérieuse.
Il y a des crises après 50.
Et à un moment, tu remets en question. Tu dis, mais à quoi je sers? Tu dis, à quoi ça sert? Je suis pourri à l'intérieur. Alors, puisque je suis pourri à l'intérieur, qu'est-ce que je fais finalement? Je suis un robot. C'est-à-dire, je suis un robot, je suis là, j'ai un look de religieux, c'est fini, c'est-à-dire que je suis religieux. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que, il faut voir comment je suis au fond de moi? Qu'est-ce que te répond la Torah? Voilà la consolation. Il te dit, ce qu'il faut, efforce-toi qu'au moins au niveau de l'action, t'es irréprochable. Au moins, fais la mitzvah. C'est déjà un but en soi. Si tu peux avoir la kavana, c'est encore mieux. Mais le fait même que tu fais la mitzvah, c'est déjà un but extraordinaire. T'as déjà tout. Ne sois pas déprimé. Si tu passes par un Shabbat et que tu dis, j'ai fait le Shabbat, mais j'ai rien senti. J'ai rien senti, ça me sert à rien. Quand je perds mon temps, quand je suis au boulot, je sens, ça décolle. J'ai rien senti. Je suis venu à un cours, j'ai rien senti. Ça m'intéresse pas, ça me parle pas, ça m'inspire pas. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que tu as le maasé, tu as l'action, c'est déjà l'essentiel. T'as déjà eu ta mitzvah. Et ça, c'est déjà le but pour lequel tu es descendu en bas. Donc, c'est déjà la consolation. Maintenant, pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre un texte du Zohar, puisqu'on est cette semaine, la semaine de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a un texte du Zohar. Le Zohar, là-bas, il nous parle d'un enfant. On appelle le Yenouka. Yenouka, c'est un enfant. Je vais vous raconter une histoire. Quand on parle de l'enfant dans le Zohar, c'est le fils de Rav Amnuna Saba. Il y avait un grand-mère qui s'appelait Rav Amnuna, le grand-père. D'ailleurs, Rav Amnuna, on le retrouve dans la Gemara aussi. Rav Amnuna. Rav Amnuna Saba, apparemment, c'est quand il était âgé, il avait un fils, ce qu'on appelle le Yenouka, l'enfant. Et cet enfant, il était très intelligent. Il avait vous savez, des fois, un enfant, il a un regard intéressant, un regard nouveau. Et une fois, cet enfant, il a expliqué la chose suivante. Il a dit, il est écrit dans Kohelet. Kohelet, c'est l'Ecclésiaste, donc de Shlomo HaMelech. Il est écrit, Achacham Enav Berosho. C'est un verset très connu dans l'Ecclésiaste qui dit, le sage a les yeux dans sa tête. Bon, c'est un verset. Alors cet enfant, il est venu au Beth Amidrash, il leur a dit, mais qu'est-ce qu'il raconte le Roi Salomon? Il dit, est-ce que quelqu'un ici pense que les yeux ne sont pas dans la tête? Il y a des gens qui ont les yeux dans les pieds. Qu'est-ce qu'il veut dire le Roi Salomon? Alors regardez comment il a expliqué. Ah bien sûr, il y a le sens littéral, comme on explique. On explique que ça veut dire quoi, les yeux dans la tête? Ça veut dire qu'il faut être prévoyant. C'est la prévoyance. Les yeux dans la tête, ça veut dire que avant que l'événement se passe, tu l'as déjà prévu. Mais dans le Zohar, on explique ça différemment. Et là, vous allez voir, on va expliquer l'importance de l'action. Tout le cours maintenant, c'est l'action. L'importance de l'action. Vehu behagdim lashon ayenuka. Donc on va d'abord devancer ce que dit le Yenouka. Le Yenouka, donc on a dit cet enfant. Cet enfant, ce fameux enfant du Zohar, qui dit la chose suivante. Qui dit dans le Zohar parashat Balak, al pasuk achacham enav verosho. Il commente le pasuk qui dit achacham enav verosho, en bas de la page 111. Qui dit que le chacham, le sage, a les yeux dans sa tête. Et il pose la question à l'enfant. Il dit vechi be'an atar inouï de varnash. Mais où se trouvent les yeux d'un homme, si ce n'est pas dans sa tête? Et là seulement dit le Yenouka, l'enfant. Enfin, on l'appelle l'enfant, mais c'est un génie. Il dit, Kra achi uvadai. Il est clair que voici le sens du verset, le sens profond du verset. Titnan, c'est enseigné dans une Mishnah, dans Kiddushin, c'est écrit, Loi ach barnash, begilui aderecha. Il est écrit qu'un homme n'a pas le droit de marcher, begilui aderecha, avec la tête découverte, arba amot, quatre coudées. Il est écrit, c'est une Mishnah, qui dit qu'un homme n'a pas le droit de marcher, à partir de 4 coudées, ça veut dire 2 mètres, avec la tête découverte. Maïtama, quelle est la raison? Parce que des shrinta sharia al reshe. Parce que la shrina réside sur sa tête. Et c'est ça ce qu'il dit. Il dit, achacham enav berosho. Le sage a les yeux dans sa tête. C'est-à-dire quoi, il a les yeux dans sa tête? C'est-à-dire, le sage, il sait que la raison pour laquelle je dois me couvrir la tête, c'est pourquoi? Parce que j'ai la shrina qui est sur moi, constamment. La shrina est sur moi, pas seulement quand je suis en train de faire une mitzvah, mais même quand je fais une mitzvah. Ça, c'est un classique, ça. T'as beaucoup de gens qui mettent pas la kippa. Après, chacun à son niveau, hein. Mais, t'as beaucoup de gens qui mettent pas la kippa tout le temps. Même chez eux à la maison, ils mettent pas la kippa. Quand ils vont mettre la kippa, quand ils vont faire une mitzvah, la vérité, c'est logique. Parce que tu dis, voilà, comme je vais faire une mitzvah, c'est sacré, quand je fais quelque chose de sacré, je mets la kippa. J'ai fini la mitzvah, j'enlève la kippa. On est d'accord? C'est comme ça que beaucoup de gens pensent. En fait, ça vient, vous savez de qui ça vient, ça? Ça vient des crétins, ça. Ben, c'est la vérité. Parce que je vois les choses comme ça. T'es en fonction, tu mets. T'as fini la fonction, tu enlèves. Pourquoi chez nous les juifs, on porte tout le temps la kippa? Même quand je suis dehors dans la rue, même quand je dors, même quand je marche, même quand... Tout le temps. Pourquoi? Parce qu'un juif, il a tout le temps la shrina qui réside sur sa tête. Il a tout le temps la shrina qui réside sur sa tête. Attendez. Il a tout le temps la shrina qui réside sur sa tête. Peu importe qu'il fasse une mitzvah ou qu'il fasse pas une mitzvah. Et le fait de marcher à la tête découverte, ça montre que j'oublie que j'ai la shrina sur moi. Pourquoi je mets la kippa sur ma tête? Pour avoir un rappel constant que, attention, tu as la shrina qui réside sur ta tête. Marcher sans kippa, ça veut dire je marche libre. J'ai des comptes à rendre à personne. Marcher avec une kippa, ça veut dire je suis conscient que j'ai un poids sur ma tête. Quel poids? J'ai le poids de la shrina, le poids de la présence divine qui est sur moi. Alors, qu'est-ce qui veut dire le Roi Salomon? Après, il y a la question. Vechol chacham, chaque sage, dit l'enfant dans le Zohar, inouï bereshe inoun. Ses yeux, ou miloui bereshe inoun. Ça veut dire ses yeux et son intérêt, sont dans sa tête. Ça veut dire quoi? Beaouch deshar yavekaima al reshe, dans la shrina qui réside sur lui. Vekad inouï taman. Et comme ses yeux sont là-bas, Linda, il doit savoir, Daou Neora, c'est de l'araméen là, Daou Neora Dadlik al-Reshe, que la lumière qui éclaire sur sa tête, Itztarich le Mishra, a besoin d'huile pour éclairer. Begin, des goufa de barnache ioptila. Je continue, je vais expliquer, hein, mais d'abord je lis dans les mots. Puisque le corps d'un homme est la mèche. Uneora adlik le ela. Là, on est dans du Zohar, là. Hein. Et, bon, Hachem, on a eu la boucha, les trucs, là, ça décolle. Là. Donc, uneora adlik le ela. Donc, le corps d'un homme est la bougie. Et la lumière allume vers le haut. De la même façon que, naturellement, le feu est toujours attiré vers le haut, et que pour comment on l'attrape en bas avec une mèche, d'accord? De la même façon, et maintenant, c'est pas que la mèche. Parce que si j'ai une mèche et du feu, est-ce que ça suffit pour une bougie? Non. Qu'est-ce qu'il me faut pour une bougie?
Combustible.
Il faut trois choses. Il me faut une mèche, un combustible, et bien sûr, du feu. Donc il y a trois choses. Alors, la mèche, le feu et le combustible. C'est quoi la mèche? La mèche, c'est mon corps. C'est quoi le feu? Le feu, c'est la lumière de la Shrina qui réside sur moi. Mais la lumière de la Shrina qui réside sur moi, comme la bougie, comme la flamme de la bougie, il faut la maintenir avec un combustible. C'est quoi le combustible? C'est les mitzvot. Et c'est pour ça, dit l'enfant dans le Zohar, où Shlomo Malkat Savar Ve'amar, le roi Salomon, il crie et il dit, ça veut dire, il acclame, et il dit, Veshemen al Roshra Loyersar. Là-bas dans Kohelet, il y a un autre passage qui dit qu'il ne manque pas d'huile sur ta tête. C'est extraordinaire ce qu'il a fait cet enfant. Parce que il a comparé deux versets dans l'Ecclésiaste. Il y a un verset dans Kohelet, on va dire en français, en hébreu c'est plus simple. Il y a un verset dans Kohelet qui te dit « Le sage a les yeux dans sa tête ». Et il y a un autre verset dans lequel il te dit qu'il ne manque jamais d'huile sur ta tête. Voilà, on parlait d'huile, David. Il n'y a pas de hasard. Hein. Qu'il ne manque jamais d'huile sur ta tête. L'enfant a expliqué, il a dit « En vérité, le roi Salomon, il nous a donné la réponse. Elle était à côté de nous, on l'a pas vue. » C'est quoi la réponse? La réponse est très simple. Qu'est-ce qui est clair sur nous? Ce qui est clair sur nous, c'est la Shekhina. Ça veut dire que le Chacham, il a les yeux sur sa tête. Ça veut dire qu'il y a trois choses, il y a toujours trois éléments. Il y a la mèche, la flamme et le combustible. La mèche, c'est le corps. La flamme, c'est la Shekhina qui réside sur moi. Le combustible, c'est les mitzvot. Et c'est pour ça que le roi Salomon nous dit, fais en sorte qu'il ne manque jamais d'huile sur ta tête. Ça veut dire quoi? Fais en sorte que la lumière de la Shekhina que tu as sur toi, elle continue toujours à éclairer. Ça veut dire, en vérité, il y a une Shekhina qui plane sur chacun de nous ici. Mais il faut l'alimenter. Quand je fais des avirotes, qu'est-ce que fait la Shekhina? Ben, c'est comme une flamme. Quand tu la maintiens pas avec le combustible, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle s'éteint. Elle monte. Alors, bien sûr qu'après, tu peux la rallumer. Parce que j'ai un combustible. Quand j'ai un combustible, j'ai le combustible, j'ai la mèche. Maintenant, j'ai pas mis le combustible, du coup, malheureusement, la flamme est partie. On peut ramener la flamme encore une fois, mais c'est un travail fastidieux de ramener la flamme. Alors que lorsque tu as la flamme qui est déjà là, maintenir une flamme qui est déjà là, c'est beaucoup plus facile que de voir recréer une nouvelle flamme. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est ça ce que dit Shlomo Meller. Shlomo Meller, il dit, mais vous imaginez, les gens, ils font teshuvah chaque année, une fois par an, à Kippour. C'est-à-dire que chaque année, c'est comme si chaque année, ils doivent rallumer leur moteur. Imaginez un moteur, tu l'as pas allumé pendant un an. Tu l'as laissé éteint. Non, c'est une image, ouais, une image. D'accord. Oui, mais voilà, mais c'est un début, ça.
Tu sais pas. Alors. Oui, peut-être qu'il a fait tes chouvards, 5 minutes, il a fait mieux qu'il pour que toi, tu sais pas.
Alors, en tout cas, je parle de tout le monde. Une vraie teshuvah, je parle. Même chacun de nous, d'accord? Les gens font teshuvah une fois par an. Ou deux fois par an, trois fois par an. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais tu t'imagines? Ça veut dire que son moteur, il est éteint. Il est en mode veille, tu vois. Et une fois par an, il le rallume. Tu sais comment c'est dur de rallumer un moteur? Imagine un moteur diesel comme ça. Voilà, Jackie va nous dire, Jackie, notre conseiller. D'accord? Un an, il n'a pas utilisé. Tu veux le rallumer. Et tu sais comment c'est compliqué? Tout s'est évaporé, tout s'est rouillé, etc. On ne rallume pas comme ça.
Ça casse le moteur.
Alors que, bien sûr, ça casse le moteur. Alors que d'un autre côté, quelqu'un qui alimente tout le temps, chaque jour, petite filine, petite mitzvah, petite seka, etc. Chaque fois que tu fais une mitzvah, tu mets de l'huile. Et quand tu mets de l'huile sur le feu, ça c'est une bonne huile sur le feu. Quand tu mets de l'huile, eh ben ça tient. Comme ça, tu as une petite veilleuse permanente. Alors c'est vrai que j'ai oui, mais je sens pas, je vois pas, je comprends pas, etc. Tu dis, ça change pas. La flamme est tout le temps en toi. Voilà pourquoi il est important d'avoir tout le temps des mitzvot. Ve'inun ou da'an tavan. Et dit le yenuka, dit l'enfant. Il dit, c'est très intéressant. Il dit comme ça. Il dit, c'est quoi le combustible? C'est pas la neshama. C'est pas la shrina. C'est pas Dieu. C'est pas mon corps. Le combustible, c'est les mitzvot que je fais. Ça veut dire qu'un juif sans mitzvot, c'est comme une voiture sans essence.
Ça tombe bien. C'est même pas la peine, ils sont pris d'assaut, c'est-à-dire sur le périphérique, la quelle.
Hein? Combustible, ça veut dire quelque chose qui se consomme.
Oui.
Quelque chose qui se consomme. Quelque chose qui se disparaît.
Oui.
Quelque chose qui s'efface, quelque chose qui s'en va.
Oui.
Alors, donc, si je compare les mitzvot avec le combustible, alors je fais des mitzvot et ils s'en vont, ils s'effacent, ils s'en.
Non, au contraire.
C'est si vous comparez.
C'est que ça permet à Maneshama de toujours rester attaché à Dieu. J'ai la flamme. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'en vérité, ce qu'on comprend d'ici, c'est que faire des mitzvot, c'est finalement la seule chose qui me maintient en vie spirituellement. Maneshama est toujours là, mais c'est un moteur, Maneshama. Qu'est-ce qui va me maintenir en vie? C'est les mitzvot. Ce que je vais faire au jour le jour. Les tefillin, la kashrout, le shabbat, les mitzvot, la Torah, l'étude, etc. Chaque petite mitzvot que je fais, c'est comme si je mets encore un peu de combustible. Je recharge les batteries. Et c'est comme ça que ça avance. Ce qu'il dit ici. Maintenant, on comprend beaucoup mieux ce qu'il dit Shlomo Meller. Et là, on commence à comprendre pourquoi c'est important de faire l'action, même si on comprend pas. Prenons l'exemple d'une personne qui a une voiture. Ok? On lui dit, tu sais, pour que ta voiture fonctionne, il faut mettre de l'essence. Ça tombe bien, justement. Il dit, je comprends pas, pourquoi il y a besoin? J'ai acheté la voiture très chère, j'ai payé 30, 40, 50 000 euros. Moi, pour moi, elle doit fonctionner sans essence. Ok? Il pense comme ça.
Non, mais
c'est vrai. Tu lui dis, pourquoi un plein de 50 euros va faire fonctionner ma voiture? J'ai acheté une voiture à 30 000 euros. Pourquoi j'ai besoin d'avoir un plein à 50 euros? Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui réponds? Tu lui dis, tu peux penser ce que tu veux, tu peux dire, tu comprends pas. Mais dans les faits, tu mets pas d'essence, ta voiture, elle va pas marcher. C'est tout. Point barre. C'est la même chose. Ce qui compte, c'est de mettre l'essence. Ah, t'as pas compris quand ça marche. C'est pas grave si t'as pas compris. Ce qui compte, c'est que tu aies mis l'essence. C'est la même chose. Un juif vient et dit, oui, mais j'ai mis les tefillin, mais j'ai pas compris à quoi ça sert. Oui, mais tu as mis l'essence. Quand tu as mis l'essence, ça marche. Alors après, bien sûr, ce serait bien si tu arrives à ouvrir le capot pour comprendre comment ça fonctionne et les carburateurs et les pistons, etc. Bon, c'est un autre niveau, ça. Très bien. Pourquoi pas? Je vais faire garagiste. Mais c'est pas ça ce qui fera tourner le moteur. Ce qui fera tourner le moteur, c'est pas ta connaissance en moteur, c'est pas ta connaissance en mécanique. Ce qui fera tourner le moteur, c'est l'essence et le moteur, point barre. Peu importe que tu comprennes ou tu comprennes pas. Et là, on comprend un message très important. Voilà pourquoi dans le judaïsme, on privilégie énormément l'action, parce que l'action, c'est ce qui fait tourner le moteur. Tu comprends après, tant mieux. Mais si tu comprends, le plus important, c'est l'action. C'est l'essence. Alors, ce qu'on voit d'ici, vous avez des questions jusqu'ici? Donc,
simplement pour la Shekhina dont vous avez parlé tout à l'heure,
oui.
Il faut se couvrir la tête,
oui.
Parce qu'il y a la Shekhina, un truc. Alors je me demande finalement, est-ce que le fait d'avoir le chapeau sur la tête, ça ne fait pas une séparation entre ma tête et la Shekhina?
Non, c'est un nuage. C'est Monsieur Benita, je vous rassure, Dieu il n'est pas en haut. Dieu il n'est pas en haut, Dieu. Quand elle était petite, on croyait, on envoyait une sonde comme ça un jour, on envoyait une sonde, elle va avancer des centaines de milliers de kilomètres, des milliards de kilomètres,
jusqu'à qu'un jour,
la sonde, tchic, il y aura un mur, elle va toquer dans le mur, et là, pff, c'est Dieu. Mais Dieu, il est pas en haut, il est partout, Dieu. Il est partout. C'est, le problème, il est pas, Dieu, il est là même si je l'accueille pas, Dieu, il est tout le temps là. La question est-ce que moi, je l'accueille? Est-ce que moi, j'ai la flamme? Dieu, il est partout. Vous croyez que Dieu, il est pas partout? C'est moi, Dieu. Dieu, il est en moi, c'est la même chose. La question est, est-ce que j'ai la flamme du judaïsme qui est allumée en moi? Ça, il faut des mitzvot pour ça. Tout le temps, une petite mitzvot. Et sans ces mitzvot-là, ça veut dire que, d'un côté, on peut faire une très grande mitzvah, une fois par an, on te dit, ça marche pas. Une très grande mitzvah une fois par an, c'est comme si t'as fait un jour un grand feu, t'as fait un barbecue. Et le lendemain, il n'y a plus rien, c'est éteint. On te dit, il faut allumer tous les jours. Petite mitzvah, petite tzedaka, petite chose. C'est toutes ces petites mitzvot qui font qu'on reste en vie. C'est les petits détails, comme ils disent, hein. Bon, on va pas rentrer dans les détails romantiques, mais c'est comme ils disent, c'est les petits détails de la vie de tous les jours, les petites attentions.
C'est la goutte d'eau de la pierre qui va sur la pierre.
Oui, c'est les petites attentions, petites choses. Tu me dis, oui, mais je t'ai payé des grandes vacances, je t'ai éclaté. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Il faut les petites attentions, petites choses. Les petites choses. De tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est ça ce qui maintient la flamme. Voilà, refermons la parenthèse. Alors, hein? Ça n'empêche pas d'aller en vacances aussi, attention. Hein, bon.
Ouais, et puis de t'éclater. Hein.
Ouais. À Ibiza avec des bonnes
sauces. Vous a plu, hein, celle-là, la Ibiza et les bonnes sauces. J'imagine le gars, tu vois. Alors, veine. Veine biur machalze. Alors, on est maintenant en haut, on est dans la page
112.
En bas. 112. Maintenant, on va essayer de comprendre ce que dit le Yenouka. Ça, ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, c'était le texte du Zohar. Le texte du Zohar, l'enfant qui a parlé dans le Zohar, ce qui est déjà très profond. Maintenant, on va essayer de commenter ce qu'a dit cet enfant, de comprendre, de rentrer dans les nuances. Qu'est-ce qu'a dit finalement cet enfant? Il a expliqué un exemple. Sheimshil, or Ashrina, le or aner. Il a comparé la lumière de la Shrina à la lumière, donc au feu d'une bougie. On a expliqué qu'il ne peut pas éclairer et s'attraper à la mèche sans huile. Ce qu'on a expliqué. Ça veut dire j'ai le feu, j'ai la mèche. Donc la mèche c'est le corps, le feu c'est la shérina, et il faut le combustible. C'est quoi le combustible? On a dit ce sont les mitzvot. Très bien. Car pareil, on l'a dit ça. Ça c'est, il résume ce qu'on a dit dans le Zohar. Que de la même façon, la shérina ne peut résider sur le corps de l'homme qui est comparé à la mèche, seulement grâce aux bonnes actions qui sont le combustible. Très, très bien. A priori, il y a un problème. Il dit, mais, velo dailo benishmato, mais ça ne suffirait pas avec la neshama? Shihele kelo kamimal. Mais il dit, mais je comprends pas. On m'a toujours dit que j'ai une neshama qui est en moi. Cette neshama, c'est une pile atomique, cette neshama. Donc c'est elle le combustible. Pourquoi j'ai besoin d'un combustible externe?
De manière sans la neshama, il n'y a même pas de vie.
Exactement. Donc cette neshama, c'est une vie. D'accord? Nefesh kol chay. C'est là, c'est ce qui donne la vie. Alors puisque la neshama, c'est la vie, pourquoi j'ai besoin de, pourquoi on ne dit pas que la neshama, c'est en même temps le moteur et en même temps le combustible? D'accord? Ça veut dire que c'est une pile atomique. Vous savez qu'il y a des sous-marins aujourd'hui qui vont en sous-marin avec des sous-marins qui fonctionnent avec des, enfin, avec un réacteur atomique, qui peuvent rester des décennies dans l'eau sans aucun problème. Et ça bouge pas. La neshama, c'est incroyable. Alors pourquoi j'ai besoin de trois choses? Il me faut la shrina, le corps, ça d'accord, la neshama, qui est aussi là, mais on te dit, attention, il faut les bonnes actions. Mais pourquoi j'ai besoin des bonnes actions? La neshama, ça devrait suffire. En d'autres termes, la question est très puissante. Pourquoi j'ai besoin de faire des bonnes actions pour être un bon juif? Le fait même que j'ai une neshama, je suis déjà un bon juif, je suis attaché à Dieu. Je suis déjà connecté. C'est bon. Il y a la mèche, c'est mon corps. Il y a Dieu, c'est la shrina. Et il y a le combustible, c'est ma neshama. Pourtant, qu'est-ce que dit l'enfant dans le Zohar?
Il faut que ça reste.
Il a dit non, le combustible, c'est pas la neshama. Le combustible, ce sont les mitzvot. Pourquoi la neshama ne serait pas le combustible? Il dit, Admor Hazaken, Sheikh le kola kamimal, yotik shem leptila. Donc, comme on l'a dit, a priori, le meilleur combustible qu'on devrait connaître, c'est l'âme. Et donc, sans avoir besoin d'action. Mais voir ou mouvan le chol maskil. Admor Hazaken dit, mais c'est très clair. Toute personne qui réfléchit comprend aisément la réponse à cette question. C'est quoi la réponse? La réponse à cette question, c'est que la neshama, comme elle est en elle-même, sans la Torah et les mitzvot, même si elle est très 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 élevée, etc., la neshama est quelque chose de distinct d'Akadosh Baruch Hu. Comment je peux faire en sorte de faire avancer les choses? C'est lorsque je vais me consumer. Et là, je vais arriver à ce que M. Benita a dit. C'est quoi comment ça marche? Comment ça fonctionne? J'ai trois choses. J'ai la mèche, j'ai la flamme, et j'ai l'huile. Lequel des trois va se consumer? Le carburant.
Le combustible.
Et la mèche? Si j'ai une bonne mèche, elle peut rester 50 ans, la mèche.
Elle peut réutiliser.
On est d'accord? C'est-à-dire que la mèche, si c'est une bonne mèche, elle peut tenir. Prenez par exemple, voilà, dans les voitures, etc. Si c'est une bonne mèche, elle peut tenir très longtemps. Ça veut dire que finalement, la seule chose qui va passer par la phase de combustion, c'est quoi?
C'est le combustible.
C'est quoi la phase de combustion? La phase de combustion, c'est quand on s'annule. Je m'efface. Ça veut dire, j'ai démarré la voiture, j'avais ça. Je vais rouler, il ne me restera plus que ça. Donc ça veut dire qu'il y a une partie qui s'est consumée, qui s'est annulée pour faire fonctionner la chose. Et bien il dit, c'est très simple. Il dit, tu sais pourquoi dans le Zohar on te dit que la neshama n'est pas le combustible, ce sont les mitzvot qui sont le combustible? Parce que la neshama, elle brûle pas devant Dieu. Elle se brûle pas, elle reste telle qu'elle est. Il n'y a pas de combustible. Ça peut être une mèche, si tu veux. Il n'y a pas de combustible, elle se brûle pas. Par contre, quand je fais une mitzvah, je me brûle. Parce que moi, j'ai pas envie de la faire, la mitzvah. Je me force à la faire. Je fais un effort, je me casse. Quand je me casse, je me brûle. Ça veut dire, je dis, moi, je veux pas le faire, je me mets de côté, je m'annule. C'est ça, le combustible. Chaque petit effort que je vais faire, c'est mon combustible. Voilà pourquoi même si c'est une mitzvah que je comprends pas, le fait même d'avoir fait l'effort de le faire, alors que c'est pas mon choix naturel, quoi. C'est-à-dire, mon choix naturel, c'est pas de faire la mitzvah, j'en fais autre chose. Je le fais. Eh ben, il te dit, Benoni, sache que tu as eu l'essentiel, parce que l'essentiel du combustible, c'est quoi? C'est le fait, justement, de s'annuler, de le faire parce que tu dois le faire. Exactement comme le combustible. De s'annuler pour un Kadosh Baruch Hu, de brûler, de consumer pour un Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on dit ici, de se désintégrer pour un Kadosh Baruch Hu. Se désintégrer. Bon, à ne pas comprendre en sens négatif, bien sûr. Se désintégrer en sens positif. C'est ce qu'il dit ici. Kine nishmat adam. Donc là, ce que vous expliquez, c'est de venir donner moi. Kine nishmat adam, la nishmat d'un homme. Afil ou tzadik gamour, même si c'est la neshama d'un tzadik absolu. Chez Oved Hashem, Beira, ou Beava, Betanugim, qui va servir à Kadosh Baruch Hu, avec une crainte, avec un amour de plaisir absolu. Afal piken, quand même, Eina bete labimtsiout le gamre. Ça veut dire que, en d'autres termes, même si t'es une personne qui naît avec une nature premier de la classe, le blond, comme il appelle l'autre, d'accord? Ça veut dire qu'il est là, il est irréprochable. Celui-là, il n'a pas besoin de bonnes actions. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, ça marche pas comme ça. On te dit, si tu ne fais pas de bonnes actions, si tu n'as pas un moment, tu passes pas par une phase de soumission, d'abnégation, eh ben, il n'y a pas le feu, il n'y a pas de combustible. Il faut trois choses. Il faut toujours trois choses. Une flamme, un support, et quelque chose qui se brûle, qui montre que voilà, je suis prêt à me brûler. Si il te manque un des trois, ça marche pas. Alors, Dieu, il te donne deux, et il te dit à toi de donner le troisième. Dieu, il te donne la flamme, c'est la neshama, enfin, c'est la shrina qui réside sur toi. Il te donne ton corps, c'est la mèche, avec la neshama. Il te dit, maintenant, à toi d'allumer. C'est ton travail. Ça rappelle une histoire qui a raconté Yehuda Avner, qui était l'ambassadeur, pas l'ambassadeur, le chargé de communication d'Israël, à Washington. Il a raconté, j'étais là-bas à New York quand j'étais, donc, il nous a raconté au Kinus Shluchim, c'était l'invité d'honneur, et il nous a raconté qu'il était venu voir le rabbi plusieurs fois. Bon, certaines choses encore, il a dit qu'ils sont encore secrètes, qu'on ne peut pas raconter, hein, parce que bien sûr, c'est toujours des sujets très sensibles, que même 50 ans plus tard, il n'y a pas prescription encore. Mais il a dit, il y a certaines choses que je peux vous raconter, des choses privées. Il a dit à un moment, quand on a parlé avec le rabbi, d'abord de choses communautaires et aussi, bien sûr, sécuritaires, il a dit, après un moment, on a parlé religion. Et là, le rabbi, il a commencé à me parler, à m'encourager, que je vais mettre les tefillin, je vais faire Shabbat, etc. Et que le rabbi lui a parlé. Et à un moment, il était tellement inspiré, qu'il a dit au rabbi, il a dit, rabbi, allumez-moi ma neshama. C'est froid? Hein? T'as un coup de vent? Il a dit au rabbi,
donne-lui un peu de bouchard.
D'accord. Il a dit au rabbi, allumez-moi ma neshama. Allumez-moi ma neshama. Vous savez ce que le rabbi lui a répondu? C'est un peu ce qui m'a intrigué, ça. Non. Le rabbi lui a dit comme ça. Le rabbi lui a dit, je t'ai expliqué ce que tu as à l'intérieur. T'as une neshama. Je t'ai expliqué ce que tu as au-dessus de toi, ça connaît pas beaucoup. Je t'ai donné l'allumette. Maintenant, à toi d'allumer. Ça veut dire comme ça. Même si tu vas aller voir un tzaddik. Tu as dit, mais le tzaddik, il va donner des brachot, etc. Maximum, c'est que le tzaddik, il va donner l'allumette. Bon. Il va donner peut-être une allumette allumée. Il dit, voilà, je donne une allumette, avec ça, tu vas allumer. Mais si t'as pas le combustible, si toi, tu maintiens pas ça, tu maintiens pas avec tes mitzvot, ça peut pas tenir. Tu peux avoir le plus grand sélection, ça peut pas tenir. Il te faut le combustible. Il faut qu'à un moment, tu te mouilles. Tu dis, ça y est, je me donne pour un Kadosh Baruch Hu. Je fais un effort. J'avais pas envie de le faire. J'avais pas envie de mettre de filin. J'avais pas envie de faire Shabbat. J'avais pas envie de faire ça. Je le fais. Et même si c'est routinier, puisque c'est pas la nature du corps, que le corps n'a pas envie de faire ça maintenant, le corps aurait peut-être resté dormir ou faire autre chose, quelque part, on brûle pour un Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est le seul combustible qui existe. C'est ce qu'on est en train de dire. Il faut passer à la deuxième, mais il faut le combustible. Personne ne pourra faire boulot à votre place. Ça n'existe pas. C'est comme un enfant. Quand on met un enfant sur terre, on va l'amener à l'école, on va l'aider à faire le devoir, on va l'aider, on va le réprimander quand il faut, on va le mettre en condition, on va même faire notre maximum. Mais qui c'est qui va décoller au final? C'est lui. On ne pourra jamais le faire décoller, nous. Alors on pourra l'assister, évidemment. On pourra le pousser, le mettre sur la piste, etc., l'accélérer. Mais qui c'est qui va décoller? Qui sait que même si tu veux dire, tu sais quoi, je le prends, je le mets dans les airs, je vais voler dans les airs. Mais après, il lui faut de l'essence, hein, pour tenir. S'il n'a pas l'essence, il va se casser la figure, il va tomber. Ça ne peut pas marcher. Exactement. Comme dit le grand poète, petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu ne peux pas voler. Mais tu peux marcher. Alors. Mais le grand poète, il chante aussi. Alors, il dit comme ça, il dit Afalpiken quand même, donc l'aneshama, même si c'est l'aneshama d'un grand tzaddik qui sert Dieu avec l'amour et le plaisir, etc., sans mitzvot, il n'y a rien. Afalpiken et in la betel et mitzvot les gamrei. L'aneshama ne s'annule pas devant Dieu, l'aneshama elle reste qu'elle est. Donc c'est pas un combustible. Ce n'est pas un combustible. Li batel veli kalel beor hashemamash liot la chadim ou miuchadim beyichud gamur rak ou davar bifne atzmo yere hashem veuavu. J'accélère parce qu'on a déjà l'oral. Machen ken, on tourne la page. Alors machen ken.
Au milieu de la page 114.
Au milieu de la page 114. Machen ken 114. Machen ken a mitzvot ou maasim tovim. Alors que les mitzvot et les bonnes actions, en retsono idbarer, ce sont la volonté de Dieu. C'est-à-dire que lorsque je fais une mitzvah, je fais pas la mitzvah parce que je la comprends. Je fais la mitzvah parce que c'est Dieu qui le veut. Oui, mais moi, je veux pas. J'ai pas envie de la faire, moi. Moi, je veux pas. Quand je fais une mitzvah, ça veut dire que quelque part, je me fais violence. Dieu veut quelque chose. Moi, je ne le veux pas forcément ou je ne le veux pas du tout. Je le fais quand même. Ça veut dire qu'entre la volonté de Dieu et ma volonté, quelle volonté va prévaloir? La volonté de Dieu. Ça veut dire que j'ai effacé ma volonté devant la volonté de Dieu. C'est exactement ce qu'on dit dans Pirkei Avot. Batel, on l'a dit il n'y a pas longtemps. Batel, retsono, mipene, retsonra. Annule sa volonté devant ta volonté. Enfin, pardon. Ça veut dire, ta volonté. Oui, mais ça veut dire, d'accord. Ça veut dire, fais passer sa volonté devant ta volonté, bien sûr. Évidemment. C'est la suite. C'est très clair. Ça veut dire que quand tu fais une mitzvah, on te demande pas de comprendre la mitzvah. On te demande déjà de la faire. Parce que quand tu la fais, tu montres que je fais ce que Dieu a demandé. Quand on envoie un soldat en mission, on lui donne une mission. Le soldat, il a envie de comprendre ce qu'il fait. C'est normal. Parce qu'il reste un être humain, c'est pas un robot. Mais il comprend pas toujours. Et quand il va poser la question au général ou à son commandant, il va dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que va lui répondre son commandant? C'est un ordre. Ça n'empêche pas que le soldat, il doit faire un effort d'essayer de comprendre avec le temps, de comprendre ce qu'il fait. Mais ça n'empêche toujours pas, d'un autre côté, que même s'il ne comprend pas, il fait quand même. Et que ce qui définira un bon soldat, c'est pas un soldat qui a bien compris. C'est un soldat qui a bien agi. Point barre. De la même façon. Pourquoi? Parce que le soldat qui a bien obéi, c'est un soldat qui a effacé sa volonté devant la volonté de ce supérieur. Et ça, c'est la nature même d'un soldat. C'est pour ça que le rabbi, quand il a lancé Tzivot Hashem, quand il a lancé le Tzivot Hashem, ça veut dire l'armée de Dieu. Il y a tout un système de points, etc. Il y a un éducateur très connu aux États-Unis qui a envoyé une lettre au rabbi, une lettre assez salée. Le rabbi a raconté, c'était quelque chose de public, et il a dit, je comprends pas, c'était en 81. Et il dit, je comprends pas comment on peut lancer l'armée de Dieu. L'armée. Comment on peut éduquer avec des enfants des notions d'armée de guerre? L'armée, c'est la guerre. Oh, pourquoi on doit parler de vos enfants? Apprenez-leur d'autres choses. Je sais pas moi, d'autres choses. Des médecins, des gens qui vont sauver le monde, etc. Pourquoi des soldats? Soldats, c'est la guerre, c'est le sang, etc. Le rabbi a répondu comme ça. Écoutez bien cette réponse. Il a dit, ça fait déjà plusieurs années que je me rends compte qu'aux États-Unis, et dans le monde en général, mais bon, ils sont toujours en avant aux États-Unis, il y a un problème d'autorité. Il y a un grand problème d'autorité. D'autorité. Les enfants n'acceptent pas l'autorité de leurs parents. C'est une réalité. Les parents ne veulent pas asseoir leur autorité, et les enfants n'acceptent pas l'autorité de leurs parents. C'est un vrai problème. Parce qu'un enfant qui n'accepte pas l'autorité, c'est-à-dire que lorsqu'il va grandir, il n'acceptera plus non plus l'autorité du système, l'autorité de la vie, l'autorité de sa femme, l'autorité, etc. Il y a un système. Celui qui n'accepte pas l'autorité, eh ben, au début, il va commencer à mentir, après, il va commencer à voler, après, il va commencer à tuer. Et le rabbi dit, c'est un sujet qui m'inquiète beaucoup. Et j'ai réfléchi, j'ai cherché, et j'ai vu que le seul endroit dans le monde civil bien sûr, dans lequel il y a encore aujourd'hui un petit peu d'autorité, une autorité respectée, c'est l'armée. Dans tous les autres domaines, prenez la politique, à l'époque il y avait des rois par exemple. Le roi c'est l'autorité. Aujourd'hui, même un président c'est pas l'autorité. Parce que qui a élu le président? C'est le peuple. C'est le peuple qui a élu le président, c'est le peuple qui fait tomber le président. Et j'ai pas un sentiment que le président a son autorité sur moi. Il a peut-être son mot à dire, mais il n'a pas son autorité. C'est moi qui décide. Je suis la démocratie. Alors que le seul endroit dans le monde aujourd'hui, dans lequel on voit encore un peu d'autorité, c'est l'armée. Et il dit, c'est pour ça que comme je sais que les enfants connaissent l'armée, j'ai pensé à faire un système similaire dans la Torah et les Mitzvot, un système qui marche très bien. Ça veut dire quoi? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit d'ici que ce qui définit un bon soldat, c'est pas un soldat qui a tout compris. Ni qui a rien compris, ni l'un ni l'autre. Peu importe ce qu'il a compris, ce qu'il a pas compris. Ce qui compte, c'est qu'il a fait. Là, ça nous aide beaucoup plus à comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu, il insiste tellement sur l'action. Et soyons honnêtes, sur la majorité du peuple juif qui font les mitzvot, s'il y a 10% qui comprennent ce qu'ils font, c'est déjà le bout du monde. Et c'est pas un raté. C'est pas un raté. Au contraire, une réussite. Parce que les soldats ont été en mission et ils ont fait leur mission. Alors il y a des gens qui étaient doués, qui ont compris. Ils ont compris, ils ont eu l'intuition de comprendre une chose d'une autre chose. C'est leur problème. Tant mieux. Mais ça n'en fait pas des meilleurs soldats. Ce qui compte, c'est de faire ce qu'il faut faire.
Même les Arabes, ils nous ont copié là-dedans. Ils ont créé un mouvement des soldats de Dieu.
Eh bien, justement.
Jonda Allah.
Alors, ce que m'a dit le responsable de Timothée. Jonda. Mais c'est très intéressant ce que vous dites. Ce que m'a dit le responsable de. Alors, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit ici clairement que les mitzvot, c'est l'action. Et l'action, c'est la mission. Et une fois que la mission est accomplie, c'est le but. D'accord? Parce que j'ai accompli la volonté d'Akadosh Baruch Hu, j'ai effacé ma volonté devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Bon, on ne peut rien dire encore beaucoup dessus, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme ça, voilà, je vous laisse le temps de faire Birkat Hamazon, de manger encore ce qu'il y a sur la table. Voilà. Et Bezrat Hashem, prochain cours, on continuera plus longuement sur ce sujet.
Ça voilà. Pour les Tunisiens, les Suisses et tout, hein. Oh là là, Marocain, fais gaffe, ils sont en train de nous dépasser là.